Voix Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 19h30 en temps universel. Jacques Aristide en votre compagnie. Ravi de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, en direct de la capitale américaine. Les titres, en ce vendredi 13 avril 2018, appel de fonds de l'ONU à Genève pour la RDC, une conférence des donateurs boudée par Kinshasa. Boko Haram a enlevé plus de 1000 enfants au Nigeria depuis 2013, indique l'UNICEF, à la veille du 4e anniversaire de l'enlèvement emblématique de Chibok. Dans la tranche magazine, gros plan sur le bilan de Patrice Talon, 2 ans après son arrivée à la tête du Bénin.
Qui dit que le chef d'État ne travaille pas? S'il a travaillé, moi, du coup, le chef d'État a travaillé.
Sur papier, on le félicite, mais les réalités du terrain sont là.
À l'international, les Occidentaux temporisent sur la Syrie, mais l'ONU craint une escalade totale. Le président américain traite d'ordure l'ancien directeur du FBI, James Comey. Et puis, ne manquez pas non plus vos rendez-vous habituels avec l'économie et les sports dans 10 minutes. En République démocratique du Congo, 2 policiers et 1 civil ont été tués dans des affrontements entre forces de l'ordre et habitants du village enclavé d'Okolo. Les violences ont éclaté hier suite à l'attaque du commissariat par des villageois en représailles de la mort de l'un des leurs tués dans ce poste de police. L'armée congolaise a dépêché des renforts. Le village Okolo est situé dans la province du Sankuru, la seule parmi les 5 de la région du Kasaï, et épargnée par les violences entre forces de sécurité et milices Kamuinansapu entre 2016 et 2017. Violences qui ont fait au moins 3400 morts. 2 enquêteurs de l'ONU avaient également été tués alors qu'ils enquêtaient. Toujours à propos de la RDC, l'ONU a lancé aujourd'hui un appel de fonds international pour l'aide humanitaire dans ce pays où des millions de personnes vivent dans des conditions déplorables après une escalade des violences ethniques depuis plusieurs années. Le gouvernement du président Joseph Kabila a choisi de ne pas prendre part à cette conférence des donateurs à Genève. Blanche Sanou.
Le gouvernement congolais a refusé de participer à la conférence des donateurs organisée à Genève. Selon l'ONU, la République démocratique du Congo compte 4 500 000 déplacés et 13 millions de personnes en besoin d'assistance humanitaire. Face à ce besoin urgent, Jens Lerck, le porte-parole des Nations Unies pour les affaires humanitaires, a indiqué la nécessité de lever des fonds, non pas pour le gouvernement, mais pour ces milliers de gens dans la pauvreté. Quant à Kinshasa, il accuse l'ONU de noircir la situation en RDC et de faire fuir les investisseurs. Mais l'opposition n'est pas du même avis. Pour Félix Tshisekedi, le président de l'UDPS, le gouvernement est indifférent face à la misère du peuple congolais. À 8 mois des élections qui doivent sortir la RDC de sa crise politique, la conférence de Genève est venue s'ajouter au panier des pompes de discorde entre le pouvoir congolais et l'opposition.
J'ajoute qu'au total, 528 millions de dollars d'aide humanitaire ont été promis ce vendredi à Genève. Le montant est bien inférieur aux attentes des organisateurs. Les Nations Unies, l'Union Européenne et les Pays-Bas espéraient entre 1,7 et 2,2 milliards de dollars. Nous y reviendrons dans la partie magazine. L'Ouganda entend accueillir sur son sol quelques 500 migrants érythréens et soudanais en provenance de l'État hébreu. Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ce ne sont pas des réfugiés mais des infiltrés illégaux. Son plan d'expulsion de milliers de migrants africains a été vivement critiqué, notamment par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Yakuba Ouedraogo.
Moussa Ekweru, secrétaire d'État ougandais en charge des réfugiés, a fait savoir qu'Israël ne payera pas l'Ouganda pour accueillir ses migrants. Il a assuré que les motivations de Kampala sont, je cite, purement humanitaires, ajoutant que les migrants ne seraient pas expulsés de force. Le gouvernement israélien veut expulser des milliers d'Érythréens et de Soudanais entrés illégalement dans le pays et qui n'ont pas de demande d'asile en cours d'instruction. Il leur propose de partir volontairement avec une somme de 3 500 $ sous peine d'être arrêtés et détenus jusqu'à ce qu'ils acceptent de quitter le pays. Des ONG soutiennent depuis plusieurs mois que des accords ont été passés avec l'Ouganda et le Rwanda, ce que les pays concernés avaient démenti à plusieurs reprises. Début avril, le premier ministre israélien avait accepté d'annuler ce programme d'expulsion, assurant qu'un accord avec le HCR allait permettre de transférer les migrants concernés vers des pays comme le Canada, l'Allemagne ou l'Italie. Mais M. Netanyahou a fait volte-face quelques heures plus tard et annulé l'accord avec l'ONU. Selon les autorités israéliennes, 42 000 migrants africains vivent actuellement en Israël.
Les islamistes du groupe Boko Haram ont enlevé plus de 1000 enfants depuis 2013 dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'indique l'UNICEF dans un rapport publié ce vendredi à la veille du 4e anniversaire de l'enlèvement de 276 lycéennes dans la ville de Chibok. C'est la première fois que l'UNICEF publie une estimation chiffrée basée sur les informations recueillies pour chaque cas du nombre d'enfants enlevés par le groupe islamiste armé. Mais l'agence onusienne précise que le chiffre véritable pourrait être bien plus élevé. L'UNICEF ajoute que près de 2300 enseignants ont été tués et plus de 1400 écoles détruites sur la même période. Mais avec Morgane Guériac maintenant, revenons sur le kidnapping de Chibok.
Juste après le rapt, 57 otages réussiront à s'échapper en sautant des véhicules en marche et à rentrer chez elles, tandis que 219 resteront aux mains de Boko Haram. Dans les trois années qui ont suivi, 107 lycéennes ont pu être retrouvées, secourues ou échangées suite à des négociations entre le gouvernement et leurs ravisseurs. Mais les autres sont toujours captives. Cet enlèvement de masse qui a provoqué une vague d'indignation mondiale est devenu le symbole des exactions commises par le groupe djihadiste qui a fait 20 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria depuis 2009. Malheureusement, l'enlèvement de Chibok n'est pas un cas isolé. Un drame similaire s'est produit à Dabchi en février. Cette fois-ci, Boko Haram a kidnappé plus de 100 filles. À croire que Boko Haram n'est pas vaincu, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement du Nigeria.
En Afrique du Sud, plusieurs milliers de personnes ont assisté aujourd'hui au retour de la dépouille de Winnie Mandela à son domicile du township de Soweto, prélude aux funérailles nationales qui sont prévues demain samedi. L'icône controversée de la lutte anti-apartheid est décédée le 2 avril à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. Elle était la deuxième épouse du premier président noir de l'histoire sud-africaine, feu Nelson Mandela. Le gouvernement a décrété un deuil national jusqu'à demain. Un Français qui s'était spectaculairement évadé de prison fin décembre à Madagascar a vu sa peine de 3 ans de prison pour extorsion de fonds confirmée en appel ce vendredi à Antananarivo. Houssine Arfa, ancien conseiller en sécurité du président malgache Héry Rajoanirimanapianine, avait été condamné fin l'année dernière à 3 ans de prison, notamment pour usurpation de fonctions, extorsion de fonds et association de malfaiteurs. Alors qu'il purgeait sa peine, il avait pris la fuite le 28 décembre dernier, une affaire qui a créé des remous sur la Grande Île. En Tunisie, 47 personnes, dont d'anciens ministres du dictateur Ben Ali, bientôt jugées pour torture. L'instance chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme ces dernières décennies a annoncé aujourd'hui avoir transmis à la justice ses 2 premiers dossiers.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le cahier international, les Occidentaux passent en revue leurs options militaires ce vendredi pour punir le régime syrien qu'ils accusent d'avoir perpétré l'attaque chimique présumée de Douma, malgré les mises en garde répétées de Moscou et du patron de l'ONU. Après avoir évoqué des frappes de missiles imminentes en milieu de semaine, le président américain Donald Trump n'avait toujours pas pris de décision finale aujourd'hui. D'après l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, Nikki Haley, le patron de l'ONU Antonio Guterres a fait part de ses craintes d'une escalade militaire totale, surtout après les menaces de riposte de la Russie. Rappel des derniers développements avec Dilidico.
Vladimir Poutine a prévenu qu'une réaction hâtive de la France pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Et plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a qualifié la dernière attaque chimique présumée en Syrie de mise en scène, à laquelle ont participé les services spéciaux d'un État russophobe. Monsieur Lavrov n'a pas nommé cet État, mais l'armée russe a affirmé disposer de preuves de la participation directe de la Grande-Bretagne à la mise en scène de l'attaque chimique dans la Ghouta orientale.
Le porte-parole de l'armée russe, Igor Konashenkov, a accusé Londres d'avoir exercé une forte pression sur les casques blancs syriens, des sauveteurs en zone rebelle qui ont les premiers alertés sur cette attaque chimique présumée. Ces accusations arrivent alors qu'une équipe de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques s'apprête à débuter samedi son enquête dans la ville syrienne de Douma.
Je vous le disais en titre, le président américain s'en est pris violemment ce vendredi à James Comey, qu'il a qualifié d'ordure et de menteur, en réaction à la diffusion d'extraits d'un livre de l'ancien directeur du FBI, dans lequel Donald Trump est comparé à un chef de clan mafieux. Ce fut mon grand honneur de limoger James Comey, a lancé le locataire de la Maison Blanche dans une série de messages virulents sur Twitter, l'accusant d'avoir fait fuiter des informations classées pour lesquelles il devrait être poursuivi. James Comey, qui dirigeait l'enquête sur les soupçons d'ingérence de la Russie dans la campagne présidentielle américaine de 2016, avec l'éventuelle complicité de l'équipe de campagne du futur président, a été limogé le 9 mai 2017 par Donald Trump. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le total des fonds d'investissement privés en Afrique est passé de plus de 4 milliards de dollars en 2015 à moins de 3 milliards en 2017. La crise pétrolière ou la chute des cours du cacao ont montré la fragilité de certaines économies comme le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. On note aussi un endettement public en hausse, tandis que les experts voient un différentiel grandissant entre les besoins en infrastructures et les réalisations. Cependant, le ministre de l'économie du Ghana assure que l'Afrique doit et va être le meilleur endroit pour investir à l'avenir. Mais les données économiques sont plus contrastées et certains indicateurs sont clairement au rouge. Le FMI salue la performance économique et les réformes au Niger. L'activité économique a progressé de près de 5% en 2017, avec une croissance de plus de 5% attendue pour 2018. Le FMI indique que la performance macroéconomique globale du pays reste forte, et le soutien des partenaires techniques et financiers ouvre une fenêtre d'opportunité pour les années à venir. La préparation du budget 2018 a provoqué une fronde sociale. Depuis octobre 2017, des groupes de la société civile et de l'opposition politique organisent régulièrement des manifestations pour demander l'abrogation de la loi de finances qu'ils jugent antisociale. En revanche, le président Mahamadou Issoufou a estimé que la loi de finances 2018 répond aux aspirations du peuple.
Eh bien oui, vous l'avez compris, l'heure du bulletin sportif et j'accueille Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques.
Alors Bayern-Real, ce sera le choc des demi-finales en Ligue des Champions.
Et oui Jacques, c'est la finale hein, avant l'heure. Le Bayern Munich défiera le double tenant du titre, le Real Madrid en demi-finale. Le Bayern et le Real, c'est 17 Ligues des Champions à eux deux, dont 12 pour le club de Madrid. Le sort a été plutôt clément avec Liverpool de Mohamed Salah, Sadio Mané et Joël Matip. Les Reds ont hérité de l'AS Rome, d'où Salah a été transféré à Liverpool. Mais méfiance, car les Italiens ont renversé le Barça au terme des matchs légendaires. Les matchs aller auront lieu les 24 et 25 avril et les matchs retour une semaine plus tard.
Les oppositions des demi-finales de l'Europa League sont également connues.
Et oui, l'Olympique de Marseille des Camerounais, Franck Zambo Anguissa et Clinton Ndji héritent du meilleur tirage possible sur le papier avec le Red Bull Salzbourg des Maliens Samasekou et Aïdara. Le match aller aura lieu au Vélodrome le 26 avril, le retour à Salzbourg le 3 mai. L'autre demi-finale propose un énorme choc entre Arsenal Diobi et l'Atlético Madrid du Ghanéen Thomas Partey.
Également dans l'actualité sportive, Yacouba, en Côte d'Ivoire, le nouveau sélectionneur des éléphants sera désigné en juin.
Oui Jacques, l'annonce a été faite par la Fédération Ivoirienne de Football. Les éléphants sont sans entraîneur depuis le départ du Belgien Marc Villemotte. Après leur élimination lors des qualifications du Mondial 2018, l'intérim est assuré par Ibrahim Camara, qui a dirigé les deux matchs amicaux contre le Togo et la Moldavie. Pour l'instant, la FIFA n'a lancé aucun appel à candidature.
Que se passe-t-il aux Amalek, à la vase des entraîneurs qui se poursuit?
Décidément, Jacques, après la défaite face à Al Ittihad, 1-2 hier, le géant Kairatin a limogé Ead Galal. En poste depuis seulement 3 mois, cette décision fait suite à l'élimination en coupe de la CAF et à une série de 3 défaites consécutives en championnat qui ont fait chuter les Chevaliers Blancs à la 3e place.
Le bulletin sportif, Yacouba Ouedraogo. Merci bien, Yacouba.
Merci à vous, Jacques.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre segment magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Revenons donc à la conférence internationale des donateurs en faveur des activités humanitaires de la République démocratique du Congo. Les Nations Unies souhaitaient recueillir 2,2 milliards de dollars, mais n'ont recueilli que 528 millions de dollars. Plus de 13 millions de Congolais ont besoin d'une aide humanitaire, soit 2 fois plus que l'an dernier. Et 7,7 millions de personnes, dont plus de 2 millions d'enfants, sont confrontés à une insécurité alimentaire grave, d'après un rapport de l'ONU. Kinshasa, qui boycotte la conférence, conteste la gravité de la crise humanitaire sur son territoire et accuse les puissances étrangères de vouloir décourager les investisseurs au moment où le gouvernement cherche à stabiliser une économie volatile. Jean-Philippe Chosy, à la tête de la branche congolaise de l'Organisation internationale pour les migrations, est actuellement à Genève, là où se tenait la conférence. Anastasie Tudiech l'a contacté. Jean-Philippe Chosy.
Je pense qu'on est certainement au-delà des 500 millions de dollars. Mais encore une fois, c'est à confirmer.
On est loin de l'ambition du 1,7 milliard visé. Comment pensez-vous atteindre cette somme et pensez-vous l'atteindre?
Écoutez, si vraiment ces promesses de dons qui ont été faites aujourd'hui se matérialisent, et on n'a aucune raison de penser que l'argent ne viendra pas, on aura quand même une réponse, puisqu'on est qu'au mois d'avril 2018, une réponse en termes de l'appel consolidé qui a été lancé donc il y a quelques mois, une réponse qui est fort encourageante. Plusieurs bailleurs ont vraiment souligné aujourd'hui à Genève et bien que c'était une première infusion, si vous voulez, de financement et qu'en fonction de l'évolution de la crise, d'autres financements seraient mis à disposition. En tout cas, je pense qu'il y a une volonté affirmée aujourd'hui de la part des bailleurs bien d'apporter une réponse financière pour permettre aux agences des Nations Unies, aux agences humanitaires, aux acteurs humanitaires en RDC, en partenariat avec nos partenaires congolais, eh bien d'apporter une réponse appropriée à cette crise qui est quand même une crise aujourd'hui d'une ampleur considérable.
Comment les donateurs vont-ils s'y prendre pour faire parvenir l'argent récolté, rassemblé aux concernés, puisque Kinshasa a boycotté la réunion difficile de passer par-dessus l'épaule du gouvernement?
Le gouvernement congolais a décidé de ne pas prendre part à cette réunion pour des raisons qui sont siennes. En tout cas, leur absence souligne le besoin pour la communauté humanitaire, pour les agences des Nations Unies, de redoubler d'efforts pour renouer un dialogue avec les autorités congolaises. À ma connaissance, en ce qui concerne l'Organisation internationale pour l'immigration, ce dialogue, il est quasiment quotidien. On a un partenariat extrêmement fort, par exemple, avec le ministère congolais de la Santé, la Commission nationale des réfugiés, donc qui dépend du ministère congolais de l'Intérieur. Donc, en ce qui nous concerne, on a un partenariat qui est robuste avec ces institutions. Et je pense qu'il y a une volonté affirmée du côté des agences des Nations Unies qui ont participé à cette conférence aujourd'hui, eh bien, de redoubler d'efforts pour qu'on puisse relancer, par exemple, le cadre national de concertation humanitaire et faire en sorte qu'on puisse, ensemble, avec nos partenaires congolais, apporter une réponse aux besoins des populations congolaises à l'heure actuelle.
Jean-Philippe Chosy, chef du bureau de mission de l'OIM en RDC, il était en ligne de Genève, en Suisse.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Des membres de la diaspora togolaise aux États-Unis appartenant à la coalition Togo Debout ont prévu d'organiser une protestation cet après-midi devant le siège des Nations Unies à New York. Ils veulent attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qu'ils appellent les graves violations des droits de l'homme dans leur pays. C'est également en soutien à l'opposition au Togo qui réclame le retour à la constitution de 1992, laquelle concerne la candidature du président Faure Gnassingbé en 2020. La coalition de l'opposition a plusieurs fois martelé qu'elle n'accepterait jamais que Faure Gnassingbé se représente pour un quatrième mandat. Abdourahmane Nadia a joint à New York la coordinatrice de Togo Debout USA, Claudine Maté.
La communauté internationale, bien qu'elle est au courant des violations des droits de l'homme et de tout ce qui se passe dans notre pays, n'est pas en train de prendre des mesures pour arrêter cela. Au contraire, on a comme l'impression que cette communauté internationale, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les Nations unies et que ce soit les États-Unis, les grands pays développés, sont en train de soutenir cette dictature.
Et qu'est-ce que vous demandez à cette communauté internationale justement? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse?
Ce qu'on demande à la communauté internationale, c'est qu'il y ait le règlement, il y ait le respect des droits humains, surtout au Togo, où on a une histoire très particulière. Et on a vécu avec un dictateur pendant 38 ans, le général Eyal Déma. Mais à sa mort, malheureusement, il y a eu un coup d'État constitutionnel. En 48 heures, son fils, qui était député à l'Assemblée nationale, est devenu président de l'Assemblée nationale. Et de président de l'Assemblée nationale, il est devenu président de la République en 48 heures.
Vous parlez de l'actuel président Faure Gnassingbé, n'est-ce pas?
Effectivement. Et il a pris le pouvoir par la force, par un coup d'État, et aidé par l'armée togolaise qui est loin d'être républicaine. Et le comble en Afrique de l'Ouest, comme vous l'avez remarqué, il y a un changement, il y a une alternance dans presque tous les pays. La Gambie en a connu tout dernièrement, mais malheureusement au Togo, et malgré ce coup d'État, Faure Gnassingbé veut demeurer au pouvoir comme son père.
Alors Claudine Maté, le président ghanéen a entrepris une médiation entre le pouvoir togolais et l'opposition. Cette médiation, selon vous, elle a des chances de réussir ou bien vous n'avez pas trop confiance?
On n'a jamais eu confiance en cette médiation, mais écoutez, dans toute histoire, dans tout problème, il faut qu'il y ait la diplomatie. Je crois que les partis de l'opposition au Togo ont montré leur bonne foi et ont voulu participer à un énième dialogue parce qu'au Togo, on a eu 27 dialogues qui n'ont jamais abouti. Mais malgré cela, ils ont accepté et on salue le président ghanéen qui a fait tous ses efforts. Mais malheureusement, on ne peut pas faire une bataille entre les deux camps. Le deuxième camp ne veut rien faire, ne veut rien entendre.
Claudine Maté, coordinatrice de Togo Debout USA. Quatre maintenant sur le Bénin où l'heure est au bilan pour le chef de l'État. Patrice Talon entame sa deuxième année à la tête du pays. Élu le 20 mars 2016, il est investi le 6 avril à Porte Novo. Né le 1er mai 1958, l'homme d'affaires a fait fortune dans la filière des intrants agricoles dans les années 1980, puis de l'égrenage du coton au Bénin au cours des années 1990 et 2001. Il a même figuré au 15e rang des plus grandes fortunes d'Afrique subsaharienne francophone dans le classement Forbes de 2015. Son arrivée au pouvoir était une bouffée d'air frais pour de nombreux Béninois, surtout après une décennie de Boniyayi. Mais pour certains, ces deux dernières années auront été mi-figue, mi-raisin, comme nous allons l'entendre dans ce reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
100 000 emplois par an pour résorber le problème du chômage, telle était la promesse faite par Patrice Talon. Mais deux ans après son élection, à la tête du Bénin, le gouvernement Talon n'a réussi à créer que 63 284 emplois selon la plateforme des organisations de la société civile dans un rapport publié le 6 avril 2018 et supprimé des milliers d'autres par le biais des réformes institutionnelles et politiques très controversées.
Et le gouvernement actuel est vraiment un regard sur l'emploi des jeunes, afin que ceux qui ont les diplômes puissent trouver affaire.
Les jeunes continuent sur la tombe. Ce que je conseille pour les jeunes, c'est l'entrepreneuriat et rien que l'entrepreneuriat.
Donc c'est une mauvaise politique que d'investir les jeunes au stage et de les laisser deux ans après à la maison.
Le chômage est à un taux très élevé actuellement, 14,3% selon l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique, INSAE. Le taux de sous-emploi est quant à lui de 50% selon le même institut. Pour certains, le nouveau départ prôné par le président président est une utopie.
Le président Talon avait dit « Je suis prêt, tout de suite et maintenant ». Mais dans ses actions, on constate qu'il n'est pas prêt.
Côté sécurité, c'est bon. Côté énergie, c'est bon. Le reste, c'est zéro. Le chef de l'État fait des décapissements, c'est pas bon.
Pour d'autres, ce n'est pas encore le pays d'abondance, mais le chef de l'État mérite qu'on le reconnaisse ses efforts.
Qui dit que le chef de l'État ne travaille pas? S'il a travaillé, moi, du coup, le chef de l'État a travaillé.
Sur papier, on le félicite, mais les réalités du terrain sont là.
En 2 ans de gestion de Patrice Talon, la vie est de plus en plus chère. Les produits de première nécessité ont connu une nette augmentation. Le pain est toujours à 125 francs la baguette. Le gari, fabrication locale, a connu une hausse de 100 francs CFA. Le taux de misère et de pauvreté, selon l'INSAE, est passé de 35,1% en 2014 à 41,7% en 2018. Pour Edouard Sonou, économiste de formation, les causes sont évidentes.
La pauvreté est ambiante et la misère, c'est la chose la mieux partagée au Bénin. Nous avons une économie essentiellement fiscale et ça ne suffit pas. Nous avons une croissance qui est tirée par le coton. On passe tout son temps à aller motiver les paysans à cultiver le coton, qu'on ne mange pas, qu'on ne délaie pas, qu'on exporte intégralement.
Et comme si cela ne suffisait pas, une crise sociale s'est installée et semble résister à tous les appels à la négociation. Pour Patrice Talon, la situation actuelle que traverse le Bénin avec la paralysie de l'administration publique est un chemin essentiel pour atteindre de meilleurs horizons.
Il y a une fronde sociale, c'est vrai, mais à vouloir préserver la paix, la quiétude, la tranquillité telle que nous l'entrevoyons, au sacrifice de l'effort, au sacrifice des réformes, au sacrifice des exigences d'une renaissance de notre pays, nous allons compromettre la paix pour les temps à venir.
Une des promesses reste vaine, la question énergétique. Pendant 2 ans, les projets se sont succédés sans pour autant résoudre l'épineux problème des délestages dont les multiplications ces derniers mois constituent un casse-tête pour les chefs d'entreprise et les ménages. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des difficultés d'accès aux médicaments antirétroviraux par les patients vivant dans les zones rurales.
Nous évoquerons l'expérience de certaines localités camerounaises où les PVV doivent parcourir de très longues distances pour avoir accès au traitement.
Pour en parler, nous recevrons Emeline Girondin, chargée d'aide au développement d'une ONG qui vient en aide aux malades de certaines zones enclavées.
Nous écouterons aussi le docteur Baleba Aubin, un représentant du gouvernement qui nous dira les efforts faits en faveur des dites populations.
Votre Santé, Votre Avenir est en programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
L'ONU va prochainement entreprendre d'identifier les Maliens faisant obstruction à la paix dans leur pays en vue de leur imposer des sanctions. C'est ce qu'ont fait savoir la France et les États-Unis cette semaine, alors que la Russie a mis en garde contre toute précipitation. Le chef de la diplomatie malienne, Tiemane Koulibaly, qui se trouvait à New York, a assuré que les petits pas accomplis au Mali pour rétablir la confiance entre les acteurs étaient des pas sûrs. Modibo Dembélé a recueilli la réaction de Yé Samaké, ancien ambassadeur du Mali en Inde.
Nous devons toujours tenir en compte que le Mali est un pays souverain et que l'ONU, en tant qu'organisation international ne peut pas sanctionner le Mali, surtout dans cette affaire de crise du Nord qui concerne l'intégrité territoriale du Mali. Nul ne peut être plus engagé à cela que nous-mêmes les Maliens. Donc dire que les Nations Unies, quelle autre organisation a un enjeu plus élevé à la solution de la crise du Mali que nous, Maliens, pas acceptable.
Quel, surtout face au mouvement rebelle, quand on regarde quand même des difficultés qu'on a à l'application de l'accord de paix qui a été signé, il faut le rappeler, depuis 2015.
Oui, mais moi je ne comprends pas cette réaction tarde à quelques mois de l'élection présidentielle qui va sanctionner un nouveau régime au Mali. Ce que ce régime n'a pas pu faire 5 ans, comment peut-on espérer entre moi? Je pense que nous sommes de discuter quelque chose qui ne doit pas y être. 4 années de gestion de cette crise n'a abouti à une application de l'ordre qui a été signée par les parties concernées. Comment peut-on s'attendre aujourd'hui que le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta puisse parvenir à résoudre cette crise à satisfaction? Aujourd'hui, nous devons regarder les choses en face. Nous devons arriver à la conclusion que ce régime n'a pas les solutions. Alors, il ne sert à rien de précipiter, d'imposer des sanctions sur le peuple malien pendant que nous avons réalisé et observé que la solution n'est pas entre les mains de ceux qui sont en train de gérer cette crise aujourd'hui.
Est-ce qu'il faudrait craindre un bras de fer entre l'État malien et l'organisation onusienne?
Il ne peut pas y avoir un bras de fer. C'est ça aussi la gestion de nos leaders. Nous...
Et voilà, Le Monde Aujourd'hui prend fin ici. La réalisation a été signée Georges Léonard Sagnot. C'était Dan Crafton à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée et un très bon week-end sur VOA Afrique.